L'expérience commence. Que vois-tu ? C'est ce que Sylvie Gasteau a eu envie de demander à Eric, qui n'a plus la vue, mais qui fait confiance à tous les autres sens et improvise d'autres chemins. C'est une percée dans le monde d'Eric, où nommer les choses leur donne des couleurs. C'est à écouter comme un poème, il y aura des sourires qui s'entendent, une voix de synthèse complice et surtout une nouvelle façon de connaître le monde. Ça s'appelle « Une idée géniale de bleu, fantaisie en cécité ». C'est une expérience de Sylvie Gasteau, réalisée par David Jacubo-Viez, à écouter si vous le pouvez au casque pour avoir les oreilles d'Eric, qui par moment pour enregistrer avait un serre-tête avec un micro dans chaque oreille.
Les micros, ils sont là.
Oui. Ah, c'est énorme, ça. Il y a deux micros, on dirait des fleurs.
J'ai amené deux casques.
On va faire de la moto.
Tu entends ?
Oh. Un peu comme dans Microcosmos, là. Je vais le mettre en face. Alors, je vais l'écrire en braille intégrale. Est-ce qu'il est bien, ce poinçon ? Ah, il accroche un peu, ce poinçon. Alors, est-ce que j'ai la place ? Ça fait juste une ligne, pile. 23 caractères. Une idée géniale de bleu.
Une idée géniale de bleu.
Fantaisie en cécité.
Fantaisie en cécité. Deux ou trois choses qu'elle sait de lui.
Eric vit au rez-de-chaussée d'une tour dans une vaste cité. On peut reconnaître son logement au géranium rouge posé sur le rebord des fenêtres. Il est le seul de la cité à offrir des fleurs au regard des passants. Eric ne voit pas avec ses yeux mais avec sa mémoire. Ses pieds connaissent les chemins. Le matin, une voix sortie d'un appareil lui indique la couleur de sa chemise et de son pantalon.
Le colorino.
Deux boutons. Le premier, c'est pour la couleur, et le deuxième, c'est pour la lumière.
Chez lui, posées sur son piano noir, de grosses pages blanches, ce sont les gnossiennes d'Eric Satie qu'il déchiffre du bout des doigts.
Noir.
Devinant chez lui un jeu infini entre l'imagination, la mémoire et la découverte, j'ai désiré en savoir plus.
Eric ?
Oui ?
Que vois-tu ?
Je vois plein de choses. Hein. Déjà, il y a une ambiance moirée, c'est-à-dire c'est comme dans un... Quand on regarde dans un lac... C'est un peu flou, et donc flotte dans cet univers-là un disque orange, comme pourrait flotter une algue qui est orange, et de temps en temps elle est bleue. Ça me fait deux couleurs, orange, et c'est un orange terne, ça me fait penser à la couleur un peu des premiers TGV. Qui donc colore un disque et des fois ça bascule dans un bleu électrique assez clair. Voilà. Pourquoi ces deux couleurs-là, je ne sais pas. Des fois j'ai un peu de rose aussi, mais c'est quand il y a des kaléidoscopes qui apparaissent. Mais bon, J'évite les kaléidoscopes.
La cécité. Au cours de mes nombreuses conférences, j'ai remarqué qu'on préférait le particulier au général, le concret à l'abstrait. Les gens imaginent l'aveugle enfermé dans un monde de noir total. L'une des couleurs que les aveugles, du moins celui qui vous parle, regrettent de ne plus voir, c'est le noir. Il en va de même du rouge. Le rouge et le noir sont les couleurs qui nous manquent. Moi qui avais l'habitude de dormir dans l'obscurité complète, j'ai été longtemps gêné de devoir dormir dans ce monde de brouillard verdâtre ou bleuâtre et vaguement lumineux, qui est le monde de l'aveugle.
Tu mesures combien ?
1m80.
C'est tout ?
Oui, c'est tout.
Éric.
Si on rajoute des talons de chaussures, bon, c'est pas très haut, hein, si on rajoute 2 cm par là. Si on rajoute une casquette, ça va rajouter encore 2 cm, 3 cm. Là, on est déjà à 1m85, 86. Et comme je suis de morphologie longiligne, il y a un effet d'optique qui fait que...
Oui. En plus, tu es accompagné dans la rue d'un bâton tout fin.
D'un bâton tout fin. Et si on compare à ce bâton, je suis un peu plus gros et plus grand. Le bâton lui-même, il fait 1m40. Je crois qu'il pèse dans les 70 grammes. Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les cannes pour aveugles, on a mis de la technologie, hein, puisque elles sont réfléchissantes la nuit. Mm-hmm. Je crois qu'il y a une section de la canne qui est rouge, et il y a une partie qu'on a en main qui est antidérapante, qui est noire. Tout le corps de la canne est en fibre de carbone, un matériau des plus solides et en même temps léger. Ouais, il est bien précieux ce bâton.
Blanchette.
Je vous présente Blanchette.
La canne d'Éric.
Des fois on l'appelle mon cheval blanc, ça c'est plus classique. Blanchette, voilà, c'est plus chaleureux. C'est ma canne. Là, c'est là. On remercie un certain Baraco pour son slogan. Yes, we can. Les malvoyants ont une canne différente du point de vue de la couleur. C'est une canne qui est jaune. La canne blanche est réservée aux aveugles. Et on dit que c'est un prolongement du corps pour toucher à distance ce qu'il y a autour de nous.
Les annotations d'Éric Satie sur ses partitions.
Parti.
De la pointe de l'oreille.
Ça va résonner un petit peu. Voilà, ça résonne un peu là. Et après, ça va résonner moins. Ici, il y a un sol assez granuleux. Bon, je ne sais pas si c'est du béton. Qu'est-ce que c'est comme sol. Souvent, moi, je tapote. C'est moins fatigant. Le principe, ce serait de balayer, de frotter le sol pour ça donne un aperçu plus complet. En face, on a un terrain de jeu avec une petite grille. Ah ouais, ça monte assez haut. Hein. Un grillage que moi j'imagine vert, mais bon, ça me regarde. Là, il y a une cuvette qui est donc ma flaque d'eau habituelle. Aujourd'hui, il n'y a pas d'eau. Elle s'est évaporée.
Et j'ai la chance d'avoir une petite crevasse ici qui m'indique que c'est l'endroit où je dois passer pour passer entre les deux petits portillons qui ferment l'allée. Alors moi j'ai eu la chance de recevoir un massage sonore quand Guylaine était encore dans sa période de formation. C'était une expérience qui m'a marqué.
Je m'appelle Guylaine et je suis sonothérapeute. Donc voilà, les cauchy, les fameux. C'est eux qui souvent ramènent un peu les gens à l'enfance, à Noël, aux vendeurs de glace.
Massage sonore.
Donc j'en utilise deux. Celui-ci.
Je connais bien celui-là.
Mais toi, ouais. T'as déjà vu autre chose que du orange et du bleu.
Oui, ça c'est nouveau, l'orange et le bleu.
Au temps du début.
Comme j'ai eu des lunettes à partir de l'âge de 7 ans. Alors que je venais déjà de passer mon CP, avec succès, mes difficultés, parce que j'avais le nez collé sur le bouquin. Tu vois, le nez collé sur le bouquin, c'était marqué en gros pourtant, hein, le livre Daniel et Valérie. Puis l'année d'après, on m'a emmené chez un ophtalmo, Monsieur Clos, et... Il m'a prescrit des lunettes et donc là, ça a été la révolution.
Et quand on te demandait quelle est ta couleur préférée, qu'est-ce que tu répondais?
Rouge, hein, oui. Sûrement. C'était surtout peut-être une prédiction. Mon père a perdu la vue au même âge que moi. Et donc l'ophtalmo de mon père, qui s'appelait Docteur Blanchot, il était assez pessimiste, on peut dire, hein. Donc c'était sans doute une crainte dans l'esprit de mes parents. Mais moi, dans mon esprit, je vivais au quotidien avec ma vue. Et donc moi, j'ai vécu pleinement en tant que voyant, voilà. Jusqu'au jour... parce que j'avais un professeur de piano qui était aveugle. C'est une dame. Et donc cette dame, c'est vrai qu'elle avait des amis accordeurs de piano. Voilà, c'est un bon métier. Et tiens, Eric, on pourrait faire ça, accordeur de piano. Et donc il y a une formation, il y a un CAP d'accord facture pour les aveugles. Il est enseigné à l'Institut National des Jeunes Aveugles, 56 Boulevard des Invalides, à Paris 7e. Eh bien, en vue de suivre cette formation et d'apprendre le braille, j'ai pu entrer à l'Institut des Jeunes Aveugles dès l'âge de 15 ans, tout en voyant donc dans la perspective de faire cette formation professionnelle. Je voyais encore très bien, puisque je pouvais lire dans le dictionnaire. Quand on a l'alternative de voir et ou de toucher, voir c'est tellement facile que, évidemment, je lisais le braille avec les yeux. Mais il fallait quand même que je l'apprenne tactilement, donc il y avait un examen à la fin du trimestre, et donc j'ai passé cet examen avec succès.
Avec tes yeux?
Ah non, là on mettait un cache.
D'accord.
On ne pouvait pas regarder. Une fois passé cet examen, j'ai repris ma lecture avec les yeux, tout en faisant semblant de lire avec les doigts. Et donc après j'ai intégré une classe de seconde.
Et là, toujours...
Et donc là, j'étais vraiment avec des aveugles. Hein. La plupart, presque à 100%, c'était des aveugles complets.
Prélude, l'initiation.
Ça a été une certaine joie pour moi de vivre cet internat, parce que pouvoir fréquenter les copains comme ça au quotidien, c'était vraiment sympathique. C'est un drôle d'univers, parce que les jeunes ont des têtes pas du tout conformes aux têtes qu'ont les jeunes dans les lycées. Voilà. Et donc, ils ont des drôles de têtes, ils ont des regards bizarres. T'avais des gars qui avaient des nystagmus, donc des yeux qui bougeaient dans tous les sens. T'avais des gars qui n'avaient pas d'iris, des yeux tout blancs. Bon, ça c'est au niveau du regard, du visage. Après, il y a la posture, l'attitude. Il y a le balancement du corps, des fois. Puis des postures un peu repliées. Puis le fait de ne pas regarder l'autre quand on est en conversation. Voilà, des choses très spécifiques aux aveugles que je découvrais toute simplicité. Mais on vit dans un très beau lieu, une sorte de petit château au cœur de Paris. Il y a des grands couloirs avec du marbre, des sculptures, des tapis rouges à certains endroits, une grande salle de spectacle avec un grand piano de concert et des grandes orgues. Ça, c'est impressionnant. Donc, cette salle, elle est au milieu de ce bâtiment et on la traverse régulièrement pour passer d'une aile à l'autre. Il y avait souvent des jeunes ou des professeurs qui jouaient soit à l'orgue, soit au piano quand on passait. Et ça faisait comme une sautée dans un nuage, sautée dans une parenthèse où la musique nous emportait ailleurs. Le temps de traverser la salle, ça prenait 10 secondes, quoi.
Ah. Ça s'arrange pas ici, hein. C'est l'enfer. Alors là, je vais traverser la rue en aveugle complet, parce qu'avec le bruit, je n'entends rien. Je traverse à l'aveuglette, des travaux partout, des palissades. J'ai l'impression que la voie est libre.
Mettez-vous dans l'ombre, ne sortez pas de votre ombre.
Non seulement j'ai côtoyé des aveugles de près, mais déjà mon père était aveugle. Déjà.
Le père d'Éric.
Ça veut dire que dans ma tête, pour moi, être aveugle, c'est assez banal, c'est assez naturel. Ça ne occasionnait pas un déclassement, une perte de valeur de soi ou quoi que ce soit. Moi, j'étais toujours très fier de mon père, parce que bon, c'était aussi une forte personnalité. Il travaillait dans le milieu financier, milieu de la bourse. Il s'est reclassé, il a été en école de kiné, et donc il a pris ce métier et s'est installé en libéral dans la petite commune où nous étions, à La Queue-en-Brie. À côté de notre porte d'entrée, il y avait sa plaque. Donc c'était marqué Louis Meuves, ma sœur kinésithérapeute, diplômée d'État, sur rendez-vous, téléphone 933 47 72. Une plaque noire avec des lettres un peu dorées. Voilà. Ma mère, elle était femme au foyer. Enfin, elle aidait aussi mon père.
Et quand ils se sont rencontrés, est-ce qu'ils voyaient ou...
En fait, ils voyaient, mais que d'un œil. Ce que ma mère ne savait pas. Et il semble que ma mère s'en est rendue compte après 15 ans de mariage. Un jour où il était en train de nettoyer sa prothèse, oui. Mais mon père, il se levait toujours très très tôt, avant tout le monde. Moi, mon père, je l'ai rarement vu en pyjama. Hein. Il a commencé à perdre la vue, je dirais, quand je suis né. Et donc, 2-3 ans après, il a chaussé ses lunettes teintées.
Je pris une décision. Je me dis, puisque j'ai perdu le monde aimé des apparences, je dois créer autre chose. Je dois créer le futur, ce qui succédera au monde visible qu'en fait j'ai perdu. La cécité n'a pas été pour moi un malheur total. On doit la considérer comme un mode de vie. C'est un style de vie comme un autre.
Alors Guylaine, tu as des sons à nous faire entendre?
Oui.
On va respirer un petit coup avant parce que... Alors je crois que ça a commencé par... la résonance d'un gong, et là, tout mon esprit s'est réunifié et s'est dirigé vers ce son, vers le gong. Et là, c'était salutaire, quoi. Je me suis bien retrouvé dans ce son et j'y suis resté après, jusqu'à la fin du massage. C'est vrai que moi, j'ai une expérience par rapport au massage. Il y a eu des jours où je pouvais faire 3 ou 4 heures de massage, ce qui est quand même beaucoup, sachant que 3 ou 4 heures de massage, c'est 4 heures avec la main en contact avec une personne. Donc c'est vraiment pas rien au niveau de l'attention qu'il faut porter aux gestes et à l'écoute qu'il faut avoir vers cette personne. C'est vraiment un effort d'attention énorme. Et le soir, quand je m'installais devant mon piano, il y avait cette capacité d'écoute qui était toujours là. Et dès que j'enfonçais une touche sur mon piano, je voyais en détail, j'entendais en détail le son. Un peu comme quand on regarde quelque chose à la loupe ou au microscope, on en voit tous les détails qu'on ne voit pas... à l'œil nu. J'ai l'impression que ma perception du son était vraiment décuplée. Et ce décuplement de la perception, ça inspirait quelque chose de profond, de très musical. Et ça m'a entraîné vers l'improvisation.
Tes paupières?
Ma relation avec mes paupières, c'est que depuis que je ne vois plus, j'estime que elles sont un peu au repos.
Parce qu'elles bougent?
Elles bougent?
Oui, elles sont là.
Oui, elles sont là, elles bougent, bien sûr. Elles remplissent toujours leur rôle protecteur du globe oculaire. Hein, D'ailleurs, bon, par exemple, s'il y a un bruit intempestif, un claquement, quelque chose, hop, elles vont se fermer pour me protéger d'un danger.
Elles se ferment aussi quand tu écoutes.
Quand j'écoute?
Oui.
Quand je m'écoute. Non, mais depuis que je ne vois plus, effectivement, bon, je suis moins astreint à ouvrir les yeux, donc c'est vrai qu'ils ont tendance à se fermer. Et d'ailleurs, quand je croise des fois des mères de famille accompagnées de leurs enfants dans la rue, et les petits qui disent oh, « Pourquoi il dort le monsieur ?»
Calme et profondément doux.
Quel est ton rapport avec le jour et la nuit ?
Si on est dans une ambiance très calme, si je m'endors un instant, et que je me réveille et que je ne sais plus quelle heure il est, je serai bien incapable de dire s'il fait jour ou s'il fait nuit. Ça fait depuis, je crois, décembre 2002 que j'ai un ordinateur avec synthèse vocale. La synthèse vocale est devenue le complice de ma pensée. Voilà, c'est un peu mon double. Et en même temps, quelqu'un d'extérieur.
Une voix de femme.
Non, c'est une voix d'homme.
Éloquence.
Alors, donc on en voit. Hein.
La voix de synthèse.
Bonjour, je suis Éloquence, votre voix de synthèse française. Les aveugles me connaissent bien et je m'efforce d'être leur plus fidèle regard sur l'écran de leur PC. Certains me trouvent trop robotique et me délaissent pour d'autres voix plus réalistes. Mais avec Eric, c'est un partenariat de longue date et je suis de connivence avec tout ce qu'il lit et écrit via l'ordi. Il y a une telle complicité entre nous qu'on ne sait plus lequel de nous pense, parle. Mais je dois rester humble, je ne suis qu'une synthèse vocale, n'est-ce pas Eric ?
Tout à fait.
Et pourtant, dès que j'écris des mots, des phrases et des paragraphes, cette éloquence qui les recolle leur donne un souffle sonore. La première trace s'est formée dans ma pensée, je réécoute et laisse cours au flux de mes idées pour poursuivre ma frappe. Éloquence me suit, elle a toujours la primeur de mes écrits. Je me suis fait à sa présence, elle se fait discrète et je reste fidèle à mes pensées. Merci Éloquence, merci Synthèse.
Sur ce
point, point, point.
Sur ce.
Je suis entraîné dans la pente. Les petits oiseaux ce matin. Toujours des petites branches d'arbres qui me caressent la tête.
Conseil, ne respirez pas sans avoir, au préalable, fait bouillir votre air.
Et j'arrive sur le fameux pont du périph. C'est comme un fleuve. C'est comme un fleuve tumultueux, là, il y a une... tout de suite happé par ce son. Souvent l'envie de chanter me vient. Et donc quand me vient l'envie de chanter, je me retiens parce que je me dis c'est l'endroit le plus pollué de Paris. Pour mieux pas respirer à plein poumon, c'est pas le bon moment. Alors ici au périph, c'est un endroit où le soir, il y a un coucher de soleil là. On a l'ouest bien dégagé. Et c'est assez fascinant.
Finalement, tu l'aimes bien ce périphérique ?
Ah bah oui, c'est comme un... c'est un membre de la famille, quoi. C'est... Il a des gros défauts, quand même, hein. Et on va rencontrer...
Le poteau d'Éric.
Cet arbre.
Le robinier.
Voilà, c'est mon grand poteau, cet arbre. Alors je cherche la pente douce qui va m'entraîner vers le passage piéton. Et donc, voilà, je traverse à la coude.
Les traversées d'Éric.
Par exemple, j'ai des trajectoires courbes, je suis en parabole.
Les virages.
Ça, pour les gens, c'est pas bon du tout, hein. Donc on veut me ramener dans la ligne droite. Mais
sur un plan auditif, ça permet sûrement de mieux gérer la trajectoire, d'osciller comme ça. Alors il y a des gens qui me disent « Ah, je vous remets dans le droit chemin, hein. Allez-y. »
C'est où, elle ?
C'est à gauche, à droite.
C'est un bête.
À gauche, à droite.
Alors... Dans la rue Didot, ça fait 20 ans que je la pratique, cette rue. Hein. J'ai découvert il y a peut-être un an un endroit où vraiment, à l'oreille, on a tout de suite une vision claire de la circulation. Quand je suis à cet endroit-là, j'attends quasiment pas pour traverser. Il m'a fallu des années pour le découvrir. Se déplacer.
Traverser ici.
Ça peut être une difficulté, mais c'est jamais une souffrance. Et pour moi, c'est une liberté surtout. Moi, j'adore me déplacer tout seul pour me rendre un peu partout. Alors, des fois, on peut avoir besoin d'aide, on peut être perdu. On peut... Voilà. Mais c'est toujours bon d'y arriver seul. C'est une satisfaction aussi.
Fredonnant.
C'est le digicode de l'EHPAD, ça fait... Ça me faisait penser à... Un cavalier qui surgit hors de la nuit. On est devant l'EHPAD où je travaille, l'EHPAD Furtado Heine. Cécile Charlotte Furtado Heine.
Eric au travail.
Donc là, je tapote un peu sur le mur, comme ça, j'arrive à la grille. On va composer le code. Ta-ta-ta-ti.
Bonjour. Ça va, vous allez bien ?
Ça va, ça
va. Merci.
Bon, bah, c'est bien calme.
Oui, c'est bien accompagné avec les micros et tout.
Oui.
Modestement.
C'est la vedette.
C'est vrai. Voilà. C'est moi la vedette.
C'est toi la vedette. Et bien, quoi, c'est voilà. Du travail, mon cher. À bientôt.
Voilà, bah, à bientôt, Daniel. Alors moi, quand je rencontre des gens, il y a des voix... c'est très difficile de donner un âge aux gens. On peut se tromper de beaucoup. Dans l'image qui peut nous apparaître... Et moi, souvent, je me suis trompé dans les âges... par exemple, je me souviens d'un gars, un peintre Malakoffiou que j'ai connu, un ancien babacool... qui jouait de la guitare, il avait l'air tellement cool que je me suis dit, bon, le gars, il a 25 ans, bon. Puis un jour, il m'a dit, non, moi, j'ai 50 balais. Simplement, le vocabulaire, l'attitude font que je l'avais pris vraiment pour un jeune, alors qu'il était mon aîné. Ça change beaucoup les rapports aux humains, parce que... Parce que si j'avais perçu qu'il avait la cinquantaine, je ne lui aurais pas du tout parlé comme si je pensais qu'il avait 25 ans. Et ça, c'est une chose aussi qui m'amuse beaucoup. Hein. C'est tous ces quiproquos, en fait, et qui vont dans le bon sens, quoi. Ça peut débloquer des choses. Bonjour.
Bonjour.
Non, c'est pas un reportage, hein. C'est juste pour enregistrer des sons qui parviennent à mes oreilles.
Ah.
Voilà.
En y regardant à deux fois.
Alors, il y a du monde par ici ?
Oui.
Oui. Bon, on va voir. Hein. Ça te tient ?
Oui.
Bonjour,
monsieur. Bonjour, monsieur.
Voilà, deux messieurs, je vois souvent, hein.
Tu Tu vois presque plus.
Vous y voyez presque plus, hein. Surtout d'un œil.
Comment ?
Surtout d'un œil. Il y a un œil qui faiblit.
Oui.
Vous vous baladez beaucoup, vous, monsieur Assimi.
Ah, moi, je suis ça.
Vous
va.
Êtes un promeneur.
Mon main, ça va.
Oui, vous avez.
Oui, je marche, ma main. Maintenant, vous savez, l'hiver, c'est pas pareil, c'est froid, des fois, il pleut. Mais oui, enfin, je marche.
C'est
je
ne
veux pas rester toute la journée. Jamais j'ai resté
dans
à la
votre
maison,
chambre, non. Bien sûr, oui.
Tout le temps dehors.
Voilà.
Tout le temps. Toute ma vie, j'ai passé dehors.
Tandis que moi, je ne sors pas.
Tandis que M. Paris, lui, il ne sort pas parce que vous avez des difficultés pour marcher, hein, c'est sûr.
Parce que c'est mes lunettes et je vois plus.
Voilà. Alors, je vais continuer mon petit tour. Et donc, je vous souhaite bon appétit, bonne journée.
Et vous aussi.
À vous. Merci
et
beaucoup.
Vous aussi, monsieur.
Alors, qui est-ce qui est là ? Ah ben oui. Alors, vous êtes installé de ce côté-là.
Ta gueule !
Ah ! Excusez-moi. Ah ben oui, vous êtes bien installé là. Ben on va continuer notre petit chemin.
Bonjour monsieur.
Bonjour. Ah, mais c'est...
C'est Amal.
C'est Amal.
Ça va monsieur Eric ?
Oui, oui, ça va bien.
Oui.
Oui, voilà. Vous tiens la main ? J'ai les mains froides. Hein.
Oui, c'est pas grave.
Je viens dehors là.
Oui.
Après, il y a aussi... toi qui as vu le vieillissement de l'autre.
Voilà, bah ça c'est une chose effectivement auquel je suis confronté depuis des années, hein, puisque je travaille dans un EHPAD. Quand j'y travaillais et que j'étais encore voyant, j'ai pu être impressionné par l'image de la vieillesse, la dégradation. Des visages, de la peau qui se tache, les yeux qui se retirent au fond des orbites.
La disparition.
Depuis que j'ai perdu la vue, cet aspect s'est effacé. J'ai pratiqué aussi le toucher avec les personnes âgées à travers des massages et dans les relations amicales et professionnelles. Les personnes âgées ont une peau très douce. D'ailleurs, bon, on sait qu'avec des années, notre peau est beaucoup plus sensible à la caresse qu'aux jeunes années.
Quand est-ce que tu t'es dit « je suis aveugle » ?
On n'arrivait pas à stabiliser ma tension dans l'œil droit, on m'a proposé la chirurgie. Mais, c'est clair, vous y verrez beaucoup moins bien. C'était la formule. Pour dire que j'avais perdu la vue, en fait. Hein. Et donc ça a commencé à la fin de l'année 2000. On m'a opéré un matin. Le lendemain... Je suis rentré chez moi, tout à fait normalement, je voyais bien. Je suis allé au cinéma et j'étais voir un film dont je me souviens. Voilà, c'était Les blessures assassines. Quand j'étais vraiment au bord de la non-voyance, je voyais encore, par exemple, les lignes blanches, ces grandes lignes larges, qui jalonnent les passages piétons, elles sont donc une alternance finalement de blanc et de noir, donc ça fait un contraste, mouvement plus contraste, c'est vraiment les conditions idéales pour accrocher l'œil qui ne voit plus grand chose.
C'est que ça, je suis un petit peu déboussolé, je renifle un peu pour voir s'il n'y a pas des petites odeurs de poulet. Ah si, ça y est, ça arrive, les odeurs de poulet rôti, hein. Donc ça veut dire métro, voilà. Métro. Un peu comme E.T., hein. Maison. Métro. Ah, je tiens ma canne un peu plus verticale parce qu'il y a du monde dans le métro. Il ne faudrait pas que les gens se prennent les jambes dedans.
On y va ? On y va !
À Paris, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde sur les trottoirs. Alors, il y a eu un certain nombre de fois des accidents. Des accidents, c'est-à-dire des gens qui se prennent les pieds dans la canne et qui tombent. Ça leur fait un croche-pied, ils tombent. Et moi, alors là, je ne sais pas quoi faire, je m'excuse, je ne peux pas trop leur venir en aide. Voilà. Et à 100%, ce sont des femmes, toujours, qui tombaient. Des fois, il y a des messieurs qui se prennent les pieds, mais ils ne tombent pas. Donc ça, ça m'a toujours beaucoup affecté. Une personne qui chute, c'est quand même un drame pour moi.
Il y a plein de gens qui pensent que c'est compliqué quand on ne voit pas de monter ou descendre un escalier. Ce qui n'est pas du tout vrai.
Les escaliers.
Les escaliers, pour moi, c'est du plat.
Du plat fractionné.
C'est du plat fractionné. En petite...
À tous les voyageurs du métro 4, notez que la ligne est entièrement fermée pour travaux certains soirs de la semaine à partir de 22h15, ainsi que certains dimanches jusqu'à midi. Due to plan works, Metro Line 4 is closed.
Je mets un peu plus fort.
Langue. Je suis Alice, votre voix française.
Je suis Alice, votre voix française.
Je suis Bruno, votre voix française. Je suis Claire, votre voix française.
Alors on a fait le tour. On revient à Alice.
Je suis Alice, votre voix française.
Mais la voix de synthèse, franchement, j'arrive pas à imaginer. Un jour, je viendrai te voir et tu me feras écouter pour que je réalise.
Ah, mais oui, oui, tu écouteras donne, Alice. Hein. Bah,
parce que là, ça me semble Alice, incroyable.
C'est toujours la même voix en plus.
Eric, à la librairie.
Et ils l'ont appelée Alice.
Oui, parce que chaque voix a un prénom. Voilà, pour le, par exemple, on a Claire, des fois qu'on entend dans les transports en commun, dans des bus. Des gares, des fois, j'entends Claire.
Bon.
Alors, Claire, effectivement, elle a une articulation, une prononciation qui est claire, mais elle est un peu maniérée à mon goût.
Bon.
Alice est plus simple.
Voilà. Bon.
Mais Alice, on la retrouve partout.
Alors, ça m'intrigue.
Et donc, par exemple, il y a des livres, des fois, qui m'ont marqué, et après, des fois, j'ai le souvenir de ces livres-là qui me reviennent en écoutant d'autres livres.
Et toujours avec la même voix, forcément.
Ah oui,
ouais.
Oui,
c'est toujours. Ouais. Ah oui, alors
j'allume. Ça va démarrer, ça va enchaîner sur Annie Arnaud.
Annie Arnaud, les années.
Bienvenue à Victor Reader. Dossier 2.
Annie Arnaud, les années.
Je sais pas trop. On va voir.
Fichier 7.
Spéochic.
Fichier 4.
Toutes les images disparaîtront.
Je vais avancer pour voir ce que ça donne.
Saut dans le temps. 1 minute.
Prologue.
Prologue. Mince, c'est quoi ça?
Je suis venue au monde tandis que Simone de Beauvoir s'éteignait.
non, c'est autre chose ça.
Fichier 15.
Rendre la dimension vécue de l'histoire. Ce ne sera pas un travail de remémoration, tel qu'on l'entend généralement, visant à la mise en récit d'une vie, à une explication de soi. Elle ne regardera en elle-même que pour y retrouver le monde, la mémoire et l'imaginaire des jours passés du monde, saisir le changement des idées, des croyances et de la sensibilité, la transformation des personnes et du sujet, qu'elle a connu et qui ne sont rien, peut-être, auprès de ceux qu'auront connu sa petite fille, et tous les vivants en 2070. Ce sera un récit glissant, dans un imparfait continu, absolu, dévorant le présent au fur et à mesure jusqu'à la dernière image d'une vie.
Alors, j'en abuse pas trop, la voix de synthèse, parce que c'est vrai que la préférence va vers la voix humaine, bien sûr.
Riez, sans qu'on le sache.
Un jour, une personne qui était en face de moi souriait, et elle m'a pris la main, elle m'a fait toucher son sourire. Et j'ai senti la fossette qui écartait la bouche. J'ai pu mesurer son sourire.
Mais moi, si je te souris, tu l'entends.
Mais le sourire, ça s'entend aussi, bien sûr. Ça s'entend quand on est au téléphone, on entend. Quand on écoute la radio, on entend. D'ailleurs, c'est une différence entre la radio et la télévision. C'est qu'à la radio, on sourit beaucoup plus. À la télévision, j'ai l'impression qu'au JT, ils font un peu la tête. Et on peut entendre de loin.
Je vais aller ouvrir la porte, écoute.
Oui.
La porte est ouverte.
Les corbeaux, les détritus qui... Là. Un engin à deux roues. Oui, on entend le vent... Des gouttelettes d'eau.
Soudainement, l'après-midi s'est éclairé, car voici que la pluie minutieuse tomba. La pluie paraît être une chose qui, en quelque sorte, survient dans le passé. Et celui qui l'entend tomber a recouvré l'instant où une bienheureuse fortune lui révéla la fleur que l'on nomme la rose et l'étrange couleur du rouge cramoisi. Cette pluie qui rend aveugles les fenêtres remplira d'allégresse, en des faubourgs perdus, les noires grappes d'une treille, en un certain patio qui n'existe plus aujourd'hui. Le soir, mouillé, me ramène la voix désirée de mon père, qui revient et qui n'est pas mort.
Donc Lionel, je te l'avais dit, qui répare il a des jukebox qui datent des années 30, les plus anciens, c'est que du 78 tours. Et puis après, il a des appareils des années 60 aux 45 tours. Donc il a allumé le décor. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une petite déco où tu as des espèces de lumières qui tournent, tu vois, pour faire ambiance un peu, plus ou moins tamisé. Pour le slow, tu vois, tu peux éteindre les lumières et hop, t'as le feeling là.
C'est bon.
Yes.
C'est bon.
Voilà. C'est parti.
Alors Marc.
Marc, l'ami d'Eric.
C'est le garçon le plus enthousiaste que je connaisse. Enthousiaste vers l'humain. Un passionné de musique et un fou de jazz. Et on passe depuis quelques années des soirées poésiques où les mots sont musique et où la musique est parole.
Yeah. that you gave me to wear.
J'adore ce son. C'est... Le petit souffle, ça y fait beaucoup.
Ça rebondit un peu.
Alors, est-ce que je peux parler de l'acoustique, du coup ? Je vois, quand j'étais gamin, j'adorais chanter dans les toilettes, hein, parce que c'est y a une résonance. Donc, on m'entendait souvent chanter assis sur le pot, à faire résonner ma voix, à faire des fantaisies. L'écho que ça donne, c'est... Ça fait plaisir. C'est tentant de faire résonner sa voix. Et plaisant de l'entendre résonner, amplifier.
La cécité est un don. En outre, l'aveugle se sent entouré par l'affection de tous. On éprouve toujours de la bienveillance pour un aveugle. Et je voudrais conclure par un vers de Goethe. Tout ce qui était proche s'éloigne. Cela peut aussi s'appliquer au lent processus de la cécité dont j'ai voulu vous parler ce soir. Et j'ai voulu montrer que ce n'est pas un malheur total, que ce devait être un instrument de plus parmi tous ceux si étranges que le destin ou le hasard nous dispense.
Alors, on va chercher le poisson. Souvent, moi je me balade dans les rues, tout ça. De temps en temps, j'entends... des petites réflexions données à haute voix. Mais je me demande bien comment il fait. Hein. Il doit voir un petit peu quand même. Bon, j'entends souvent ce questionnement par rapport aux aveugles. Et c'est vrai que l'acoustique, c'est quelque chose que tout le monde vit au quotidien. Et c'est bien ça qui nous permet de nous repérer dans l'espace. S'il y a des murs, s'il y a des ouvertures, une expérience que tout le monde connaît, c'est on prend un grand verre et on le porte à son oreille et on entend que l'espace a été modifié près de notre oreille et on a l'impression d'entendre le verre.
À votre gauche. Mets tout droit. Hop, un peu à gauche encore. Et là, vous y allez tout droit. Bon courage.
Quand j'étais petit, avec ma sœur, on portait des coquillages à notre oreille. On disait qu'on entendait la mer. Bon, on n'allait jamais à la mer, mais... Et des fois, quand on disposait d'un petit coquillage, on le portait à son oreille, puis on n'entendait rien du tout, en fait. Bon. Mais bon, on essayait d'y croire. On dit, on entend la mer.
Bonjour Eric.
Bonjour Sui.
Comment ça va ?
Très bien.
Alors, Eric,
alors, Sui,
ça c'est le bouquet composé par ma femme pour vous.
Eric et le fleuriste.
Waouh, c'est merveilleux le parfum là.
Donc vous pouvez toucher la composition.
Voilà, on a des belles feuilles sur les côtés là.
Voilà, ce que vous touchez là, là, c'est des orchidées, c'est des fleurs d'orchidées. Ouais. Au fur et à mesure, tous les 2-3 jours, il y en a une qui s'ouvre, il y en a une qui part.
Alors, celui est quand même un fleuriste extraordinaire parce que c'est le seul qui à la fois décrit et me fait toucher aussi les fleurs en détail et les bouquets dans leur graphisme, leur volume. Et donc les couleurs là, elles sont claires.
C'est un dégradé entre le rouge et le jaune clair.
Voilà. Et les feuillages sont verts là autour.
Les feuillages verts, exactement.
Et ici, là, on a...
C'est une rose parfumée.
C'est une rose.
C'est ce que vous sentez.
Ah oui.
Alors pour vous, on choisit vraiment des fleurs qui ont des dimensions odorantes et graphiques. Hein. Et
ça donne une harmonie aussi à l'ensemble.
Voilà. Et en général, nos clients, ils observent, ils regardent, ils discutent et parfois ils boivent une tisane avec nous de fleurs. La prochaine fois, vous goûterez. Elle a une couleur bleue.
Bon. Ah ouais?
Oui, et cette couleur bleue, elle apaise beaucoup de gens.
Une idée géniale de bleu.
Je vous ferai goûter la prochaine fois que vous passerez.
D'accord. Fantaisie en cécité.
Une idée géniale de tisane bleue. Eh bien, je suis très content.
Est-ce que vous me permettez de faire une photo de souvenir?
Avec Eric, Guylaine, Saoussane, Sylvie, Bruno, des résidents de l'EHPAD Furtado Heine, Marc, Lionel, suit. Voix de synthèse, éloquence, Alice.
Regardez par là. Merci Eric.
Voix humaine, Malala, VTA. Alain Béziel lit des textes de Georges-Louis Borges. Prise de son, Pierre Henry. Improvisation, interprétation et composition au piano, Éric Mevez. Prise de son, Marie Le Peintre.
Je lui dis au revoir, Lionel, merci.
Mixage, Guillaume Ledu. Une idée géniale de bleu, équipe de réalisation, David Jacubovies, Bruno Mourlan, Sylvie Gasto. Coordination, Aurélie Charon, Inès Duperron.
Merci.
Merci à Jukebox Classique, à la librairie Zenobi, à la bibliothèque associative de Malakoff et à la résidence Furtado Hein pour l'accueil de notre fantaisie.
La danse peut se terminer ainsi.
Noir.